Chapitre 5. La tentation. Il y avait foule ce jour-là dans le délicieux cottage que possédaient M. et Mme d'Armel à Samoa, sur les bords de la Seine, un peu avant d'arriver au pont de Valvin. Les d'Armel étaient en effet très riches et très lancés. Lui avait fait une rapide fortune dans la métallurgie, et elle, un ancien mannequin, ne lui avait apporté en dot que sa beauté d'ailleurs éclatante. Elle avait réussi tout de suite, grâce à l'intelligence et au tact naturel dont elle était douée, à s'élever à la hauteur de la situation, et elle était devenue l'une des femmes les plus en vue de Paris. À Paris, les réceptions hivernales qu'elle donnait dans son hôtel de la rue de Montchenin étaient extrêmement courues. Elle savait, avec une adresse remarquable, attirer chez elle les vedettes du moment, et notamment les artistes américains de cinéma qui éprouvent le besoin de s'exhiber dans notre capitale et de se faire consacrer dans une ville qui, malgré tout ce que peuvent en dire tous ceux qui la jalousent et la calomnient, est tout de même restée la vraie capitale du monde. Ce jour-là, un beau jour d'octobre, où les feuilles d'or et les arbres attendent en frémissant sous une brise légère le coup de vent mortel qui doit les balayer vers le sol, ce n'était ni Gloria Swanson, ni Douglas Fairbanks, ni Barry Pickford, ni Adolphe Manjou, ni même le génial Charlot, que les d'Armel allaient offrir en liberté à leurs amis. C'était beaucoup mieux. Prêtant une oreille indiscrète aux propos qu'échangent dans le vaste hall qui occupe presque entièrement le rez-de-chaussée de la maison, et dont les deux larges baies qui l'éclairent donnent sur une pelouse verte et même fleurie. Mais pour éviter de nous embrouiller au milieu des répliques qui partaient de tous côtés, approchons-nous d'un couple qui s'est quelque peu retiré à l'écart et qui est composé de deux personnages que nous connaissons déjà, c'est-à-dire de Marie-Thérèse Gervais et du poète roumain Stanis Politescu. « Vous croyez qu'il va venir ?» interrogeait la jeune femme. « Oh, j'en suis sûr, car s'il avait dû s'abstenir, il est trop bien élevé pour ne pas être accusé. » « Est-ce qu'il est aussi bien qu'on le prétend ?» interrogeait Marie-Thérèse. « Comment ?» s'exclamait le roumain. « Vous ne le connaissez pas ?»« Si, je l'ai vu deux ou trois fois au tennis club, mais je vous avouerai que je n'ai pas prêté une grande attention. » « Oh, c'est extraordinaire! Il n'y a pas une femme à Paris, même en province, ainsi qu'à l'étranger, qui n'ait été plus ou moins amoureuse de lui. En ce moment, j'étais encore une jeune fille. Ben, précisément, c'est parmi les jeunes filles qu'il a commis le plus de ravages. Eh bien, moi, il m'a laissé parfaitement indifférente. Affaire de goût, de tempérament. Stanny, vous allez devenir insolent. « Oh, excusez-moi, mais vous me faites tellement enrager. »« Avec quoi donc ?»« Mais avec vos principes. »« Quels principes ?»« Le devoir, l'honneur, la fidélité conjugale. »« Mais pourquoi voulez-vous donc que je trompe mon mari ?»«
Parce que, si c'était avec moi, cela me ferait infiniment plaisir. »«
Vous êtes idiot. Je vous remercie. » Mais je vous ai dit qu'en me faisant la cour, vous perdriez votre temps. Je ne demande qu'à être pour vous une bonne camarade. Car je reconnais volontiers que vous êtes un très agréable compagnon. Alors pourquoi gâter tout cela par un tas de choses qui n'ont rien de bien drôle par elles-mêmes, et surtout par des complications qui risquent fort de provoquer un drame? Or le drame, je le déteste déjà au théâtre, à plus forte raison. Je ne pourrais le supporter dans l'existence. Et puis, pourquoi risquerais-je là uniquement pour vous être agréable? Car moi, je me moque éperdument de toutes ces bêtises auxquelles vous attachez tant d'importance. Et oui, pourquoi voudriez-vous que j'empoisonnasse l'existence d'un homme qui m'aime plus que vous ou que n'importe qui ne saurait m'aimer et qui m'en donne une preuve si manifeste en me laissant faire tout ce que je veux?
« Son attitude à votre égard semblerait plutôt indiquer que vous lui êtes totalement indifférente. Moi, si j'étais votre mari, je serais atrocement jaloux. »«
Oh, ce serait gai. Mais c'est une éventualité que je n'ai pas à craindre. Parlez-moi plutôt de notre don juan national. Oh, vous y tenez, pas outre mesure, mais pendant que vous me narrez sa biographie, vous direz pas de bêtises. Politesco ne put réprimer un mouvement de dépit. Mais il était tenace, et comme il n'avait pas renoncé à conquérir la belle Marie-Thérèse, et qu'à aucun prix il ne voulait la contrarier, il reprit. Eh bien, je vais vous donner satisfaction, cher ami, et me transformer, pour vous être agréable, en dictionnaire des hommes illustres. À la bonne heure, le mot Willigermat est né en, je l'ignore, en l'année, je l'ignore aussi, mais j'estime qu'il doit être âgé d'une trentaine d'années environ. Il a été lancé par le président du West Club, le baron Mirador, aujourd'hui décédé. Il n'a pas tardé, ainsi que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, à exercer sur les cœurs de l'élément féminin le plus incontestable ravage. Marié d'abord à la fille du banquier Navarin, il a divorcé à peine au bout de 2 ans de ménage. Il a ensuite épousé une certaine demoiselle de Calabert qui lui a apporté en dot une somme considérable. On parle de plus de 60 millions. Il a encore divorcé, naturellement, scandait Marie-Thérèse. Non, pas du tout, mais il lui est arrivé une histoire absolument abracadabrante. Il y a quelques mois, le comte et la comtesse Zermatt ont été victimes tous les deux d'un accident d'automobile. Lui a été grièvement blessé. Il est resté pendant plusieurs semaines dans une clinique entre la vie et la mort. Enfin, il s'en est sorti et aujourd'hui, ainsi que vous allez pouvoir le constater vous-même, il ne se ressent nullement de ce télescopage qui a failli lui coûter la vie. « Et sa femme ?» interrogeait Madame Gervais. « Ben voilà où les choses deviennent tout à fait curieuses, » répliqua Stani Pontitesco. Après être resté évanoui pendant près de 7 heures, cette malheureuse est revenue à elle, mais malgré tous les soins dont elle a été entourée et qui l'ont peu à peu, lentement ou difficilement ramenée à la vie, elle a entièrement perdu la mémoire. Et pour elle, phénomène rare mais non unique dans les annales de la médecine, la vie ne commence que du jour où, pour la première fois depuis son accident, elle a rouvert les yeux. Elle n'a reconnu personne, pas même son mari. Non seulement elle ne sait plus lire ni écrire, mais elle ne s'exprime que par petits cris, telle une enfant qui n'a pas encore acquis l'usage de la parole. Et qu'a-t-on fait de cette malheureuse? Le comte Zermatt l'a fait transporter dans une maison de santé qui est située en pleine campagne, sur les bords du Loing, aux environs de Moret. Il a loué et même acheté, dit-on, à Bougron, près de Fontainebleau, une magnifique propriété, afin d'être plus près d'elle. Il paraît qu'il va la voir tous les jours. « Il l'aime donc ?» interrogeait Madame Gervais, que cette histoire semblait intéresser. « Bon, non, je ne crois pas, car un professionnel de la séduction tel que le comte Zermatt ne peut s'attacher vraiment à aucune femme. « Mais qu'en savez-vous ? » s'écria la jeune femme. « Ces gens-là ont donc des sens, mais pas d'âme. » « C'est possible, admettait Marie-Thérèse. Cependant, on en a vu se prendre leur propre piège et souffrir à leur tour plus intensément qu'il avait fait souffrir les autres. On voit ça surtout dans les romans. Et aussi dans la vie. Bon, « après tout, c'est possible, » reconnaissait le Roumain. Et galamment, il ajouta, « Oh, je suis sûr que si vous vouliez vous en donner la peine, » vous seriez tout à fait capable de faire camarade à ce grand triomphateur. Ah, voici les bêtises qui vont recommencer, coupait net la jeune femme. Et tout de suite, désireux de ne pas laisser la conversation s'égarer sur un terrain qui lui était désagréable, elle fit. Dites-moi, Stani, étiez-vous hier soir à la première de la revue du Moulin Rouge?
« Oui, 7e fauteuil, 3e rang.
Vous êtes stupide.
Mais vous, aujourd'hui, terrible avec moi.
Je ne le serai jamais assez. Mais là n'est pas la question. Hier soir, mon mari est rentré enthousiasmé du succès qu'avait remporté une certaine danseuse bohémienne nommée Marquita.
C'est exact, reconnaissait le Roumain. Elle nous a présenté un numéro tellement savoureux, pittoresque et original qu'elle a emballé la salle à un point que, tableau suivant, Nono Manette faisait une tête épouvantable et qu'elle a chanté son final avec une mauvaise humeur qu'elle a failli faire partager au public.
C'est bizarre, fit Marie-Thérèse, dont le sourire s'était subitement figé.
Politesco fut sur le point de s'écrier. Seriez-vous jalouse? Mais il se contint, tant il redoutait de se faire rabrouer et d'achever de perdre le peu de chemin qu'il avait fait dans les bonnes grâces de celle dont il était fortement épris. Madame Gervais reprenait.
Vous saviez que mon mari s'intéressait à cette petite?
C'est-à-dire que, ripostait le Roumain d'un air embarrassé, je l'avais entendu raconter.
Quelle était sa maîtresse?
Coupa vivement la jeune femme. Non, je n'ai pas dit cela.
Non, mais vous le pensez.
Et Madame Gervais poursuivit avec animation.
Eh bien, mon cher, lorsqu'on répétera devant vous ce potin ridicule, si vous tenez à m'être agréable,
oh, si j'y tiens,
vous n'aurez qu'à répondre que c'est absolument faux. Que mon mari a rencontré au hasard d'une excursion cette jeune fille que des bohémiens avaient dû voler quand elle était toute petite, car elle n'a rien de leur race ni de leurs sentiments, et qu'il a tout de suite deviné en elle une véritable artiste, qu'il l'a présentée au directeur du Moulin Rouge, et un point c'est tout. Je tiens à ce qu'il soit bien établi une fois pour toutes que, si je n'ai pas d'autre amant que mon mari, celui-ci n'a pas d'autre maîtresse que sa femme.
À peine avait-elle prononcé ces mots assez haut pour qu'ils fussent entendus par un groupe voisin, au milieu duquel pérorait le journaliste Albert Thury, que l'on avait à juste titre surnommé le potin de Paris et des départements, qu'un valet de chambre annonçait solennellement « Monsieur le comte Willy Zermatt !» Toutes les conversations s'arrêtèrent instantanément, et tous les yeux se braquèrent sur le nouvel arrivant. Vêtu avec une sobre élégance qui achevait de rendre incomparable son chic naturel, le visiteur s'avançait vers la maîtresse de la maison et lui adressait quelques compliments pleins d'amabilité déférente. Après avoir serré la main de M. Darmel, il se tourna vers l'assistance et lui adressa un salut d'une telle allure qui suffisait à prouver qu'il était un vrai gentleman. « Comment le trouvez-vous ?» glissait, non sans une certaine inquiétude, Stani Politello à l'oreille de Marie-Thérèse. Celle-ci lui répondit d'un ton agacé, « Oh, pas mal !» En réalité, elle avait été instantanément subjuguée. Jamais encore il lui était arrivé de se trouver en présence d'un homme qui réalisait mieux l'image de celui dont, lorsqu'elle était jeune fille, elle désirait être aimée. Ce visage aux traits fins et réguliers, cette tournure pleine de distinction, et ses yeux de velours, qui, lorsqu'il s'était un instant posé sur elle, avaient paru la frôler comme une caresse, tout contribuait à lui donner l'illusion que celui qu'elle avait si vainement attendu se présentait enfin à elle. Un frisson inconnu parcourut sa chair. Son trouble allait grandir encore. Madame Darmel, en effet, s'approchait d'elle avec le mot Willy.
« Ma chère Marie-Thérèse, disait-elle, le comte Zermatt vient de me demander, en parlant de vous, quelle était cette charmante femme qu'il n'avait pas l'honneur de connaître. Voulez-vous me permettre de lui répondre ?
Très volontiers, cher ami.
« Eh bien, fit la maîtresse de maison en se tournant vers son hôte, c'est Madame Gervais.
La femme du peintre ? Fit aussitôt le bellâtre.
« Oui.
Alors, fit le comte Zermatt de sa voix bien timbrée et naturellement harmonieuse, je suis deux fois ravi, madame, de vous présenter mes hommages. D'abord parce qu'il s'adresse à une beauté radieuse entre toutes, à un charme auquel on ne résisterait pas, Puis parce que j'éprouve en même temps le plus vif plaisir de vous dire, madame, combien j'admire le talent de votre mari. C'est déjà un maître et un très grand maître, dont le génie si lumineux nous transporte comme par la baguette magique d'un enchanteur, loin des laideurs moraux que l'on voudrait imposer à notre goût. Cette salve de compliments que le beau Willy venait de lui tirer à bout portant acheva de déconcerter Marie-Thérèse. Elle ne put que balbutier les paroles banales, usuelles. « Monsieur, je suis infiniment flatté. » Mais se sentant visée, observée, elle se ressaisit et reprit avec un peu plus d'aplomb. « Je ne mérite pas, monsieur, vos si grands éloges, mais je suis très heureuse que vous appréciez le talent de mon mari. » Tandis que Madame d'Armel s'éloignait, le comte Zermatt reprenait. « N'aurais-je pas le plaisir de rencontrer aujourd'hui Monsieur Jacques Gervais ?»«
Malheureusement non, il a en ce moment un travail fou. »«
Je comprends qu'on se l'arrache. Ben, viens, madame, lui dire combien je serais heureux de lui exprimer de vive voix toute ma sympathique et sincère admiration. »
Il y sera très sensible, soyez persuadé qu'il sera lui aussi enchanté de vous connaître.
Mais M. d'Armel intervenait, et après s'être excusé auprès de Marie-Thérèse de lui enlever son ami Zermatt, il amenait auprès d'un groupe de jeunes gens qui tout de suite formèrent autour de lui un véritable cercle. On eût dit un souverain recevant les hommages de ses sujets. Tant était grande l'ascendance que le comte Zermatt exerçait sur quiconque le rencontrait une première fois. Marie-Thérèse, lâchant Stanipolitesco, qui n'osa pas s'attacher à ses pas, rejoignit Madame d'Armel. Celle-ci, enchantée du succès de cette grande vedette mondaine qu'était le beau Willy, triomphait au milieu d'un groupe d'amis qui s'apitoyaient non point sur la comtesse Zermatt, dont le triste sort leur importait peu, mais sur son pauvre mari, condamné à l'isolement et à la tristesse perpétuelle.
« Ce qu'il y a de terrible, déclarait Madame Wandsberg, beauté brune aux yeux ardents, au teint mat qui aimait à se donner de faux airs de gitane, c'est qu'il ne peut pas refaire sa vie.
« Comment cela ?» interrogeait la très jolie petite Margelle Normus, femme d'un grand bijoutier qui venait de transporter sa boutique de la rue de la Paix au rez-de-chaussée d'un nouvel immeuble des Champs-Élysées. Madame d'Armel expliquait.
« Oui, le comte Zermatt n'est pas homme à abandonner une femme qui, paraît-il, l'adorait. Et quand bien me le voudrait-il, il ne le pourrait pas. La loi, en effet, n'admet pas que la folie de l'un des deux conjoints soit un cas de divorce. »
« Oh, j'ignorais ce détail, » ponctuait Madame Wandsberg.
« Moi, » s'indignait Madame Normus, oh, « je trouve ça ridicule, odieux, abominable. »
Après tout, en admettant que la comtesse Zermatt ait aimé son mari, puisqu'elle ne le reconnaît pas, qu'est-ce que cela pourrait lui faire qu'il en épousât une autre ?«
Mais si elle revenait à la raison, » objectait Madame d'Armel.
« Oh, mais tant pis, » posait Madame Wandsberg.
« Après tout, » émettait Madame Normus, « il n'a qu'à prendre une maîtresse. »«
Ce doit être déjà fait, » lançait Madame Chartier, présidente d'un groupe féministe, qui, non content de réclamer la vote des femmes, ce qui est normal, demandait à ce que les hommes qui étaient pris en flagrant délit d'adultère fussent privés de leurs droits civils, ce qui est évidemment exagéré.
« Je crois que vous vous trompez, ma chère, » lançait d'un air ton aigre-doux Madame d'Armel. « Le comte Zermatt adore sa femme et les soins touchants qu'il lui prodigue sont bien faits pour prouver à tous qu'il ne pense qu'à elle. »«
Et après tout, il lui doit bien cela, » s'écriait Madame Artigot, la grande couturière du faubourg Saint-Honoré, qui, sous prétexte d'une franchise dont elle prétendait ne pouvoir se départir, ne cessait de répandre à droite et à gauche le répertoire sans cesse renouvelé de ses inépuisables rosseries.
« Et qu'a-t-elle donc fait de si extraordinaire pour lui ?» questionnait Madame Gervais, qui écoutait tous ses propos avec un intérêt dont elle était toute surprise.
Madame Ardigot la toisa d'un air d'autant plus ironique et dédaigneux que Marie-Thérèse n'était pas sa cliente, puis elle dit
« Oh, bien, madame, que vous n'êtes pas parisienne.
« Moi ?» protestait la jeune femme.
« Mais madame, je suis née à Paris, rue Tronchet. J'y ai toujours vécu, je m'y suis mariée, et en dehors des déplacements indispensables, je compte y finir mes jours, et le plus tard possible.
« Alors, s'étonnait la grande couturière, comment se fait-il que vous n'ayez pas entendu parler du drame qui a bouleversé Paris il y a environ un an ?»
Marie-Thérèse allait répliquer, mais Madame d'Armel s'empressait de déclarer.
« Ma jeune amie venait de se marier et filait un trop parfait amour pour qu'elle eût le moindre souci de tout le reste. » Elle ajouta. « Oh, au fait, je ne m'aperçois que je ne vous ai pas présenté. Madame Guervais, la femme du dessinateur bien connu. Madame Artigot, la grande couturière.
« Oh, je connais madame, » réclamait aussitôt Marie-Thérèse, avec son plus admirable sourire, « mais de réputation seulement. N'est-elle pas une de nos gloires parisiennes ?»
La couturière, qui était extrêmement sensible aux éloges, parut satisfaite de celui que lui adressait sa charmante interlocutrice. Abandonnant ses allures d'impératrice, elle répliqua avec plus de condescendance que d'amabilité,
Oui, j'ai vu ce que fait votre mari, c'est très gentil. »
Mais incapable de retenir un mot, Ross, lorsqu'il lui venait à l'esprit, elle ajouta
« La différence qu'il y a entre lui et moi, c'est que moi, j'habille les femmes et que lui les déshabille. »
Marie-Thérèse, du tac au tac, répliquait
« Oh, il en est, madame, à qui vous devez rendre un fier service. »
Cette réplique provoqua quelques sourires. Mais, loin de paraître offensée, Madame Artigot, on eût dit au contraire qu'elle lui rendait sympathique celle qu'il avait préférée. Et, se tournant vers Madame d'Armel, elle fit
« Elle est charmante, cette petite. C'est une vraie Parisienne. »
À ce compliment d'autant moins banal qu'il lui venait d'une personnalité dont l'indulgence n'était pas la qualité principale, la femme de l'artiste rougit de plaisir et elle se promit bien de s'en aller dès le lendemain, commander à cette souveraine de l'élégance une robe sensationnelle. Madame d'Armel disait à Madame Artigot en lui désignant Marie-Thérèse
« Racontez donc à cette chère enfant l'histoire du second mariage de Louise Hermat. Vous voyez bien qu'elle meurt d'envie de la connaître. »
Tandis qu'elle s'éloignait avec Madame Mansberg, Normus et Charlette, la grande couturière, désignant un canapé à Madame Guervais, lui disait avec une amabilité dont elle était peu prodigue et qui montrait que la femme du dessinateur venait d'emblée de faire sa conquête,
« Asseyons-nous, ma petite. Je vais combler la lacune de vos connaissances historiques. »
Enchantée de l'aubaine, Marie-Thérèse, dont la curiosité est d'autant plus vivement excitée que le comte Willis Hermat avait produit sur elle une impression de trouble contre laquelle il lui avait été impossible de se défendre, s'installa auprès de la grande couturière qui reprit.
« Êtes-vous bien au courant du pédigré de ce beau garçon ?»« J'ai entendu dire qu'il s'était marié deux fois. »«
C'est exact !» déclarait Madame Artigot.
« Je sais également qu'il a été lancé par le baron Mirador et qu'on lui impute un certain nombre de conquêtes. »«
Oui, ce n'est pas pour rien, en effet, que ses amis l'avaient surnommé le Don Juan des Grands Bars. »
Tout cela, c'est de la préhistoire, comme celle de son premier mariage, qui a pu à un moment offrir un certain intérêt, mais est aujourd'hui complètement oublié. Occupons-nous donc aujourd'hui uniquement du second. En deux mots, voici. Il y a un peu plus d'un an, moi, le beau Willy, notre Willy, ainsi que l'appellent tous ceux qui l'admirent assez fanatiquement pour copier servilement sa tenue, sa façon de parler et ses manières. Notre Willy, donc, à la suite d'une grosse maladie,
se trouvait en villégiature sur les bords de la Loire lorsqu'il fit la connaissance de châtelains du voisinage, M. et Mme de Calarbert, ainsi que de leur fille Gisèle. Instantanément, il aspira à la mère et à la fille, non pas un de ces béguins passagers qui ne laissent en vous nulle trace, même légère, mais une de ces passions auxquelles rien ne résiste. Sur ces entrefaites, M. de Calabert, nouveau riche et nouveau noble, qui, après avoir gagné une fortune considérable pendant la guerre, avait jugé utile de se faire octroyer par le pape, avec une bénédiction apostolique, un titre de comte qui lui allait, paraît-il, comme une robe de bal à un sergent de ville, mourut subitement à la suite d'un de ces copieux repas dont il avait conservé l'habitude. Et ce n'était que le premier épisode d'un drame qui, ainsi que vous allez le voir, va se corser d'une tragique façon. Notre Willy, mis en demeure, dit-on, de choisir entre la mère et la fille, choisit la fille, ce qui était normal. En effet, si Madame de Calabert avait conservé une beauté incontestable, Gisèle représentait la jeunesse, la grâce et le charme. Je l'ai habillée. C'était une femme tout à fait dans votre genre, très fine, très naturellement élégante. « Bon, madame, je suis confuse, » murmurait Marie-Thérèse. « Mais si je vous le dis, c'est que je le pense, » affirmait Mme Artigot. « Je suis incapable de faire un compliment qui ne soit pas rigoureusement sincère. Je suis extrêmement flatté. Voyons, où en étions-nous ? Ah, j'y suis. Je vous disais que Mademoiselle de Calabert avait sur sa mère les avantages de la jeunesse et en plus une fortune de 60 millions. » qui acheva d'assurer sa victoire. Willy se déclara donc pour elle. Alors, furieuse, la comtesse quitta le château et revint à Paris. Et lorsqu'un soir, notre Willy rentrait à son hôtel, elle lui tira un coup de revolver en pleine poitrine et se logea ensuite une balle dans la tête. Elle mourut sur le coup. Les herbates, qu'il avait échappé belle, se rétablit assez promptement. Beaucoup pensèrent qu'après ce scandale, son projet de mariage avec Gisèle serait abandonné. Mais ce fut, paraît-il, Mademoiselle de Calabert qui exigea que cette union s'accomplît dans la plus stricte intimité, en même temps que dans le plus bref délai. Et 6 mois après, Willy et sa femme étaient victimes d'un terrible accident d'automobile, dont vous connaissez les suites. Ah oui, madame, et voilà, maintenant vous êtes à la page. Quant à penser, ainsi que cette chère madame d'Armel, que notre Willy est inconsolable, il ne divorcera pas, d'abord, parce que cela lui est impossible, et quand bien même en aurait-il la faculté, il ne le ferait pas. Une femme qui vous apporte 60 millions de dot, cela ne se rencontre pas tous les jours sous un pneu ballon. Mais quant à demeurer fidèle à celle dont l'état mental empêche de lui en savoir gré, je n'en crois rien. Il se peut même très bien déjà qu'il ait déjà une amie, mais comme il est d'une éducation parfaite, il se gardera bien d'étaler une liaison qui pourrait lui valoir certaines désapprobations qu'il doit tenir à éviter, et j'ai la certitude que celle sur laquelle il fixera son choix ne sera nullement compromise et qu'elle n'aura rien à regretter. » Elle se tut. Marie-Thérèse, elle aussi, garda le silence. Son regard s'était dirigé vers celui dont Madame Artigot lui parlait. Le comte Zermatt, qui avait réussi à rompre le cercle des jeunes nobles qui cherchaient à l'accaparer, était maintenant en butte assassine aux oreilles et aux propos langoureux d'un quatuor de pigeonnes roucoulantes qui semblait lui adresser en même temps, sous la forme de déclarations plus ou moins déguisées, leurs offres de prochains et parfaits services. « Comme ces dames doivent l'ennuyer !» fit tout à coup la grande couturière avec un étrange sourire. « Le fait est, » déclarait Marie-Thérèse, « qu'il n'y en a pas une qui soit vraiment jolie. » Mais dites qu'elles sont laides à faire peur. »
Et brusquement, tout en posant sa main sur le bras nu et délicieusement dessiné de sa voisine, Madame Hartigot dit
« Il me fait pitié. J'ai envie de voler à son secours. Mais je n'ai qu'un moyen, c'est d'aller le chercher. Cela ne vous ennuie pas ?»«
Mais pas du tout, madame. »
Madame Artigot se leva et s'enfuit vers le comte Zermatt. Sans doute la grande couturière et le don Juan des grands bars devaient-ils se connaître plus qu'on ne pouvait le penser.
Oh, tout bien, tout honneur, certes, mais quand je m'aperçois que j'oubliais de vous dire que Madame Artigot avait depuis longtemps défrisé la quarantaine et que ses allures de dragon, sinon de vertu mais d'autorité, eussent suffi pour mettre en déroute un régiment d'amoureux. Un simple clignement d'œil qu'elle adressa au beau Willy suffit pour que celui-ci, au grand désappointement des quatre pigeonnes qui l'entouraient, se détacha d'elle et s'en vint trouver l'impératrice de la mode.
« Vous avez l'aveu parlé, cher ami ?» demandait Zermatt.
« Deux mots seulement, » répliquait Manon Artigot à son oreille.
Et elle lui murmura à l'oreille
« Je crois que j'ai trouvé la petite femme qui vous convient. Mariée, forcément discrète, jolie comme un amour et pas sotte du tout.
Où est-elle ?
Là-bas, sur le canapé. Elle baisse pudiquement les yeux, mais je suis sûr que son cœur bat déjà pour vous. »
D'un regard rapide, le don Juan des grands bars l'examinait en connaisseur.
Elle est très bien, cette petite.
Tout à l'heure déjà, lorsque Madame Normelle m'a présenté à elle, je l'ai trouvée charmante. C'est la femme du dessinateur Gray, qui cherche en ce moment à lancer une bohémienne d'opéra comique qui doit être sa maîtresse.
On le dit, appuya la grande couturière, mais je vois que vous êtes suffisamment renseigné. À vous, si cela vous convient, de faire le reste.
Et, flanquée du comte Zermatt, elle s'en fit rejoindre Marie-Thérèse, qui, toujours assise sur son canapé, feignait de regarder d'un côté opposé. Madame Artigot attaquait de sa voix métallique que lui eussent envié plus d'un baryton de sous-préfecture.
« Je ne vous présente pas l'un à l'autre, puisque cela a déjà été fait. »
Madame Gervais leva la tête et adressa un charmant sourire au beau Willy, qui la contemplait d'un regard brillant, comme un miroir à alouette. Afin d'achever de le mettre à l'aise, la grande couturière reprenait
« Vous êtes tout à fait gentille, chère madame, de m'avoir aidé à arracher notre Willy à cette escouade de dindes, qui ferait bien d'aller chercher ailleurs un caporal. » Oh, tenez, que c'est drôle, regardez-les donc. »
Les quatre flirteuses venaient en effet de se précipiter sur Stani Politesco, au moment juste où celui-ci, afin de déjouer la manœuvre combinée par la grande couturière et de devancer celui en qui, non sans raison, il pressentait un rival dangereux entre tous, s'approchait discrètement de Madame Gervais. S'enhardissant et désireuse d'affirmer immédiatement sa suprématie sur les quatre dindes auxquelles Willy venait d'échapper, Marie-Thérèse s'écria
« Faute de coq, on mange des merles !»
La femme dragon rit bruyamment. Ce qui ne lui arrivait que dans les circonstances importantes. Et le comte Zermatt, décidé à se mettre en frais, fit en s'adressant à Marie-Thérèse « Vous connaissez, madame, la fable de la fontaine, le coq et la perle ?» Amusée et ne sachant trop où il voulait en venir, la jeune femme se mit à déclamer
« Un jour, un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. »
Elle s'arrêta, se demandant ce que signifiait cette plaisanterie.
« Peut-être avez-vous oublié la suite ?» interrogeait le don Juan des grands bars.
« Mais pas du tout. »«
Alors, voulez-vous être assez aimable pour continuer ?»
Le beau Willy parlait d'une voix si chaude, si enveloppante, que la jeune femme se sentit incapable de lui résister. Sans la moindre hésitation, elle reprit.
Je la crois fine, dit-il, mais le moindre grain de mil ferait bien mieux mon affaire.
Je vous remercie, madame.
Alors, c'est tout?
Oui, c'est tout. Et si je vous ai demandé de me remettre en mémoire ce bref et charmant apologue, c'est afin de vous dire que je ne suis pas du tout de l'avis du coq de La Fontaine, et que si je rencontrais sur mon chemin une perle au lieu de le porter au beau premier lapidaire, je la garderais précieusement pour moi.
« Pourquoi me dites-vous cela, monsieur ?» questionnait Marie-Thérèse, qui avait très bien compris le sens caché du madrigal que venait de lui adresser l'invincible conquérant. Celui-ci ne se faisait nullement prier pour répondre.
« Parce que j'ai l'impression, en vous regardant, que je viens de rencontrer une perle plus claire que la rosée et plus belle que celle de tout l'Orient. » Une perle française montée à la parisienne par le plus artiste des joailliers. »
Tandis qu'il parlait, Madame Artigot s'était discrètement éclipsée et se dirigeait vers le buffet somptueusement garni que l'on avait dressé dans la salle à manger même. Après un tel effort, elle méritait vraiment de se restaurer copieusement. Ébloui par l'adroite déclaration que venait de lui adresser le séducteur professionnel qu'était le beau Willy, et de plus en plus désireuse de ne point paraître sotte aux yeux de cette grande vedette mondaine dont, parmi tant d'autres, elle avait réussi à fixer l'attention, Marie-Thérèse répliquait « Oh, puisque perle il y a, et puisque perle je suis, permettez-moi, monsieur, de vous prévenir que je dois réintégrer chaque soir l'écrin doublé de satin qu'est mon foyer. »
Willy observait. « Oui, mais ce qui ne vous empêche pas de vous en évader dans la journée. Mais je vous ennuie peut-être. »«
Oh non, pas du tout. »«
Je puis rester ?»«
Oui, même vous asseoir. »«
Près de vous ?»«
Mais les autres sièges sont trop loin. » Nous serions obligés de parler par signe.
Profitant de l'autorisation, Willy s'installait auprès de Madame Gervais. « Il y a longtemps, demanda-t-il, que vous connaissez cette bonne Madame Martigot ?»«
Non, d'aujourd'hui seulement. »«
Ah, vous voir, on aurait dit que vous étiez de grandes amies. »«
Non, pas du tout, c'est Madame Darmel qui tout à l'heure nous a présentés. »
« Mais décidément, madame, vous êtes comme le fils de Jupiter, dont parle le poète dans ce vers célèbre. Aux accords d'Amphion, les pierres se mouvaient. » Et il poursuivit de ce ton aimablement enjoué, sans emphase et pleine de déférence familiarité qu'emploient les séducteurs professionnels qui veulent attirer dans leurs bras la proie qu'ils convoitent. Mais la mère Asticot, c'est le surnom que le personnel de sa maison lui a donné, et que beaucoup de ses amis ont pris la malheureuse habitude d'employer en parlant d'elle. Non, pardonnez-moi, je ne recommencerai plus cette plaisanterie d'un goût plus que douteux et même profondément vulgaire. Donc, Madame Artigot est la femme la plus difficile, la plus méfiante qui existe quant au choix de ses relations. Je sais de ses clientes, et non des moindres, qui ont attendu des années avant de l'entendre leur adresser un mot aimable. Pour qu'elle se soit montrée aussi gracieuse à votre égard, et qu'elle m'ait fait de vous un bref mais sans sensationnel éloge, il faut que vous soyez doué d'un véritable pouvoir d'enchanteresse. » Et d'une voix dont il semblait vouloir atténuer les vibrations un peu trop indiscrètes, il reprit. D'ailleurs, je m'en aperçois moi-même, puisque je sens déjà que tout à l'heure, quand je devrais vous quitter, cela me sera, oh, je n'ose pas encore dire pénible, mais très désagréable, car je me dirai, mais quand, maintenant, pourrais-je la rencontrer ? Avec adresse, Marie-Thérèse répliquait.
« Mais tout à l'heure, monsieur, ne m'aviez-vous pas dit que vous seriez heureuse de connaître mon mari ?»
Oh, attention, se dit le donjon des grands bars, c'est une fine mouche.
Tant mieux, c'est beaucoup plus abusant que si elle se donnait tout de suite.
Et tout haut, il reprit. Certainement, j'admire beaucoup son talent. Il a apporté au music hall une note d'art inconnue jusqu'alors. et ces affiches ont un véritable enchantement des yeux.
Je ne voudrais pas avoir l'air de lui faire de la réclame, mais cependant, je vous engage vivement à aller voir la dernière revue du Moulin Rouge. Je dois avouer qu'il s'est surpassé.
Hélas, madame, je sors très peu, surtout le soir, soupirait Zermatt, dont le visage s'assombrit d'une teinte de mélancolie.
Oh, excusez-moi, j'avais oublié que...
Ah oui, on vous a raconté l'immense malheur qui m'était arrivé.
Oui, madame Darmel m'a dit.
C'est horrible, n'est-ce pas?
Effroyable, accentuait la femme du dessinateur. Mais le mal n'est pas irrémédiable?
Willy secoua la tête d'un air sceptique, puis il fit. On m'a dit que si. Enfin, c'est du moins ce que prétendent les médecins, mais je n'ai guère confiance en eux. Cependant, mon devoir est de tout mettre en œuvre pour tâcher que l'on aide ma pauvre femme à retrouver cette raison qui s'est si brutalement envolée. Et il continua. Physiquement, elle est restée admirable. Elle ne porte aucune trace de cette blessure au sommet de la tête, de ce terrible traumatisme qui a éteint en elle le flambeau qui éclairait ses pensées. Ses yeux ont toujours la même douceur. C'est étrange, pardonnez-moi, mais depuis que je suis près de vous, j'ai l'impression que vous avez les mêmes yeux qu'elle, ces yeux qui révélaient si bien son cœur charmant, comme les vôtres révèlent votre grâce exquise. Il se tut et, d'un geste qui semblait irréfléchi, il chercha la main de Marie-Thérèse, qui, au moins spontanément, se tendait vers la sienne. D'une voix qui tremblait un peu, le comte Zermatt reprenait. « Oh, je vais la voir tous les jours, le matin vers 10 heures. Elle ne me reconnaît pas, pas plus qu'elle ne reconnaît personne. Elle ne sait plus parler. Elle a des joies et des désespoirs de tout petit enfant, mais elle ne paraît pas souffrir de son état. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que sa santé est plus florissante et que jamais elle n'a été plus belle. Vous vous doutez, n'est-ce pas, de ce qu'est ma vie? Aussi, il y a des moments, ils sont fréquents, où je regrette de n'avoir pas été tué, tant ce douloureux spectacle m'enlève tout plaisir de vivre.
Mais il ne faut pas parler ainsi, il faut espérer, vous dis-je.
« Oh, je ne vous ai pas tout dit !» s'écriait le donjon des grands bars, d'un ton à la fois empreint de douleur et de mystère. Et il regarda autour de lui. Le hall était presque vide. 3 ou 4 vieux messieurs, à l'autre bout de la pièce, s'attardaient en une discussion qui devait rouler beaucoup plus sur les affaires que sur la politique, car elle était paisible et ronronnante. Tous les autres invités des Darmel s'étaient roués à l'attaque du buffet. Zermatt reporta aussitôt ses yeux vers Madame Gervais et il lui dit « C'est singulier, la vie. Voilà à peine un quart d'heure que je vous connais et voilà qu'une force à laquelle je me sens incapable de résister me pousse à vous livrer un secret que je n'ai encore jamais révélé à personne.
Oh, « Mais je vous en prie, s'écria la jeune femme, ne me dites rien. »
Pourquoi?
Parce que vous le regretteriez peut-être.
Oh, je n'ai jamais regretté qu'une chose.
Laquelle?
Celle de n'être pas compris.
Je vous comprends très bien, au contraire, et je vous plains de toute mon âme.
Oh non, pas encore assez.
Mais ce que vous voulez me confier est donc plus redoutable que je ne le pensais?
Oui.
Mais vous me faites peur?
Oh, vous n'avez rien à craindre de moi, et moi, j'attends tout de vous. Madame, je vous en supplie, laissez-moi tout vous dire, à vous qui avez ses yeux, à vous qui devez avoir son âme. Et tout bas, le beau Willy martela. Je n'aime plus ma femme.
Mais c'est affreux,
tressaillait Marie-Thérèse. Plus affreux encore que vous ne pouvez l'imaginer.
« Et depuis quand ?» interrogeait Marie-Thérèse.
Depuis le jour où, oui, physiquement ressuscité, j'ai constaté le vide absolu de son âme et de son cœur. J'ai cherché à lutter, à me raccrocher à l'espoir que me donnaient les médecins, à me dire bah, « tu la retrouveras bientôt, comme elle était jadis ». Mais à mesure que les jours passaient, mon indifférence devenait de plus en plus profonde. J'avais l'impression que le bloc de glace, transparent comme du cristal à travers lequel je l'apercevais, ne se fondrait jamais. Mais ne croyez pas qu'à un seul instant, j'ai eu même l'idée d'esquiver mon devoir, non. La mort de mon amour m'a fait qu'en aviver en moi la conception, et à m'ordonner de le remplir avec une rigueur encore plus grande. Je suis riche, il est vrai, je pourrais donc m'étourdir, me distraire. Mais quoi qu'on vous ait peut-être dit, le contraire, je ne suis pas l'homme des plaisirs faciles. J'ai été, comme tous mes pareils, léger, inconséquent, avide et orgueilleux de conquêtes sans cesse renouvelées. J'ai voulu avoir mon tableau dément. Mais je me suis vite aperçu que ce n'était pas là que résidait le vrai bonheur. Il ne me fallait pas des femmes, mais une âme. Je me suis marié une première fois avec une jeune fille très moderne. Nous ne nous sommes pas compris et nous avons divorcé. Bien que j'en eusse le droit, car elle avait renoncé à faire appel du jugement prononcé à ses torts, je lui ai laissé notre fille. Je ne le regrette pas, car elle l'a fait admirablement élevée par sa famille et elle-même mène une existence toute de travail et d'honneur devant laquelle respectueusement je m'incline. « Quel beau caractère !» se disait Madame Gervais, littéralement suspendue aux lèvres du beau Willy. Ce dernier continuait. « Malgré le succès de cette première expérience, j'ai résolu de recommencer ma vie et j'ai épousé Mademoiselle de Calabraire. Vous avez peut-être entendu parler, où cela a fait assez de bruit, du drame de famille qui a précédé notre union. » « Oui, monsieur, » répliquait nettement la femme de l'artiste. « Sans doute vous avez-vous blâmé, Gisèle et moi, d'avoir passé outre. »« Mais nullement, monsieur, puisque vous vous aimiez. »« Ah, voilà déjà de votre part une parole réconfortante qui m'en fait espérer bien d'autres. » Et l'ex-don Juan des Grands Bars poursuivait. « J'ai connu alors des heures incomparables. » Ces quelques mois d'une union qui s'annonçait harmonieuse et magnifique entre toutes ont été pour nous une véritable extase. Et voilà que soudain tout se brise. Et de sa voix si pénétrante, si caressante, le comte Zermatt continua. Madame, j'ai lu autrefois, quand j'étais un adolescent, presque un enfant, un roman de je ne sais plus quel auteur qui s'intitulait L'exil du ciel. C'était l'histoire naïve et charmante d'une âme qui, dépouillée de son enveloppe mortelle, s'envolait au paradis, y goûtait les plus pures et les plus suprêmes délices, et puis tout à coup redescendait sur la terre et venait se réincarner dans le corps qui reposait encore inerte et glacé, parmi les fleurs dont pieusement ce qu'il aimait l'avait entouré. Elle revenait à elle, on criait au miracle. Les siens, fous de joie, prodiguaient leurs baisers à la ressuscité. Et la mère lui disait, tout en répandant des larmes de joie, « Je t'en prie, le bon Dieu, qu'il a accompli le miracle de te rendre à moi. » Mais la jeune fille, tout à la pensée du bonheur qui venait de lui être ravi, ne répondait pas à ses étreintes et à ses cris d'allégresse. À partir de ce moment, tout ce qui était la terre lui apparut si différent, si loin de ce qu'elle avait appris du ciel, que chaque soir elle ne cessait de demander à Dieu qui l'avait exilée du paradis de la rappeler à lui. Eh bien moi, madame, comme l'héroïne de cette jolie légende, j'ai été exilée du ciel.
Comme elle, je trouve la terre si triste, si laide. Le monde humain, si peu conforme à la mentalité, aux aspirations nouvelles que j'ai prévues, en savourant la perfection dans le bonheur. Mais je n'aurai pas, comme elle, l'espoir de la retrouver un jour, parce que tout est fini chez moi, que je suis seul et que je resterai toujours seul jusqu'à la fin. D'autant plus ému par ce qu'elle venait d'entendre, que le mot Willy s'exprimait avec un accent de sincérité qu'elle ne pouvait mettre en doute. Madame Gervais reprenait : Je m'en voudrais d'apporter à votre douleur, que je comprends si bien, des consolations qui pourraient vous paraître banales. Cependant, je ne puis me taire. Je sens très bien que ce n'est pas avec des mots que l'on peut, non pas guérir, mais apaiser une si cruelle souffrance, mais avec des preuves d'affection que je suis toute prête à vous donner.
Que vous êtes bonne de me parler ainsi.
Gravement, Marie-Thérèse, qui semblait déjà à moitié prisonnière de ce véritable envoûtement auquel le séducteur se livrait sur elle, reprenait. J'ignore ce qu'il adviendra de cette première rencontre, mais dites-vous bien, monsieur, que chaque fois qu'il vous sera agréable de me voir, je serai toujours heureuse de vous retrouver. Le beau Willy saisit la main de la jeune femme et y appuya ses lèvres. Madame Gervais sentit tout son être frémir au contact de cette bouche ardente et voluptueuse. Elle se leva, se dégagea en un geste de vague défense auquel il manquait une énergie qui eût signifié à l'audacieux qu'il ne fallait pas recommencer de telles plaisanteries. Encouragé, Zermatt allait la ressaisir, l'attirer vers lui lorsque Madame Darmel apparut. « Mon cher comte, dit-elle, nos amis se demandent ce que vous êtes devenu et m'ont prié de partir à votre recherche. Oh, je vois que vous n'étiez pas bien loin. » Instantanément, Zermatt avait repris son masque habituel et tout de suite, il répliquait avec cette désinvolture élégante qui lui était particulière. « Oh, figurez-vous, chère madame, que Madame Gervais et moi, nous nous sommes retrouvés en ce qu'on appelle le pays de connaissance. » Et nous nous sommes aperçus que nous avions beaucoup d'amis communs. » Marie-Thérèse, qui s'était levée, avait rejoint Madame Darnel. Craignant déjà de se compromettre en paraissant au buffet en compagnie du beau Willy, elle dit à son amie « Excusez-moi, je file à l'anglaise. Nous dînons ce soir en ville et je n'ai que le temps de rentrer pour m'habiller. » « Voyons, il n'est que 5 heures, observait la maîtresse de maison. Restez-nous encore un peu. Non, non, je vous assure. La route de Fontainebleau à Paris est si dangereuse que j'exige toujours de mon chauffeur qu'il ne fasse pas plus de 50 à l'heure. Ah, vous êtes donc peureuse? Oui, très, je vous l'avoue. Cependant, vous n'avez jamais eu d'accident. Non, je ne tiens pas à commencer. Vous me pardonnez, n'est-ce pas? Au revoir, cher ami, je vous laisse à vos invités. Mes compliments, monsieur Darmel, et à bientôt. À bientôt. »
Tandis que madame Gervais rejoignait son auto, le donjouan des grands bars, en entrant dans la salle à manger, avait immédiatement repéré madame Ardigot en train de se bourrer de ses sandwichs, de gâteaux et de petits fours qu'elle arrosait copieusement de champagne. Il parvint à se faufiler auprès d'elle et l'arrachant pour un instant à ses exploits gastronomiques, il lui dit « Pas mal, votre numéro. C'est tout à fait ce qu'il me faut. »
Alors, content, enchanté, vous croyez que ça va marcher?
Avec la fatuité d'un bel âtre qui sait très bien que rien ne peut lui résister, Zermatt répondait « Oh, j'en suis sûr !» D'un ton mystérieux, la grande couturière observait « Pourvu que le père ordonnait ne vienne pas encore nous mettre des bâtons dans les roues. »«
Oh, le père ordonnait, dit le beau vieilli, pour l'instant il se tient bien tranquille. »
Et avec un sourire de sourde menace, il fit « Je l'engage à continuer. »